Ok, on va continuer notre série de leçons sur glorifier Dieu dans votre corps. On a vu beaucoup de choses en une seule leçon. On est déjà rendu à la 20e leçon et il nous en restera encore probablement encore quelques-unes. C'est un sujet qui est vaste. Et alors ce soir, on va regarder les femmes chrétiennes, comment qu'elles doivent s'habiller avec pudeur et modestie. Donc on a vu l'alimentation, on a vu la sexualité, on a vu. Alors ce soir, ça fait partie de glorifier Dieu dans notre corps, la manière dont on s'habille. Il y a des versets qui en parlent. Les versets qu'on utilise, c'est souvent un verset qui vont parler surtout de la femme. Mais je pense qu'avec l'expérience que j'ai vue dans les églises en général depuis quasiment 40 ans, là, je suis chrétien. Alors, on a vu toutes les couleurs. Quelque part, je trouve qu'il y a beaucoup de manquements, à la fois chez les femmes et à la fois chez les hommes, depuis quelques années surtout. Parce qu'il y a une mode qui est en train de changer aussi dans le comportement des hommes face à la mode. Alors, quelque part, c'est important de regarder ce que les Écritures nous disent là-dessus. On dit que quand on devient chrétien, le Seigneur. On appelle ça la seigneurie du Seigneur. On lui reconnaît le droit de dominer sur nos vies, mais pas juste sur tous les aspects de nos vies. Et bien entendu, ça inclut la manière dont on s'habille. Alors, c'est ça qu'on va regarder ce soir. Les femmes chrétiennes doivent s'habiller avec pudeur et modestie. Alors, ça implique deux devoirs en particulier. Et plus particulièrement depuis quelques années au Québec, puis je dirais en Europe surtout, et aux États-Unis, je dirais ça comprend deux devoirs pour la chrétienne en général, et j'ajouterais pour les chrétiens aussi parce que de plus en plus les hommes aussi sont concernés par ce genre de choses-là. Le premier devoir, c'est les versets qui nous disent que la femme doit s'habiller avec pudeur et modestie. Je dois vous dire que depuis 40 ans, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de femmes dans les églises qui ne s'habillent pas avec modestie et pudeur. Le problème, c'est que parfois, la femme ne fait pas ça intentionnellement. Mais il reste que souvent, les femmes ont des genres de vêtements qui provoquent un peu la convoitise masculine. Sans même qu'ils s'en rendent compte, mais des fois, ils vont avoir le raisonnement suivant, ils vont dire, mais s'il n'est pas content, il n'y a rien qu'à regarder ailleurs. Ça, c'est pas vraiment ce que la Bible nous enseigne. Quand, si tu es une occasion de chute pour ton frère, il faut que tu changes ton comportement et non pas blâmer ton frère puis lui dire, ah, regarde ailleurs. Ça, pas de même, ça marche. Alors, l'obéissance au commandement du Seigneur dans la vie quotidienne, ça illustre et ça valide la puissance de l'Évangile. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Si le Seigneur sauve quelqu'un, on s'attend à ce que le Seigneur fasse une œuvre de transformation dans la vie de la personne. S'il n'y a aucune transformation et que tu te prends dans une église chrétienne et que ça a l'air la même chose que quand tu rentres dans une assemblée de mondaine, païenne, où ce que souvent. Si vous regardez, par exemple, quand ils ont des réunions d'artistes, soit au Québec, soit aux États-Unis, vous regardez des fois comment les femmes sont vêtues, c'est ouf. Il y en a que c'est pas la nudité, mais c'est pas loin. Mais on s'attend à ce que dans une assemblée chrétienne, on ne voit pas de choses qui soient similaires à ça. Pourtant, moi, depuis 40 ans, j'en ai vu. Des blouses qu'on voit à travers, des jupes pendues jusque dans le haut de la cuisse, des pantalons tellement serrés que tu vois toutes les formes. Je pourrais allonger la liste, là. Je l'ai vu personnellement de mes yeux, là. À quelque part, faut se dire, est-ce que la Bible enseigne quelque chose là-dessus? Mais oui, comme de raison. Si vous allez dans 1 Timothée, au chapitre 2, verset 9 et verset 10, qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Et que pareillement, les femmes se parent d'un vêtement honnête, avec pudeur et modestie. La pudeur, on sait c'est quoi. Quand une femme se promènera pas tout nu dans l'assemblée, la pudeur, c'est qu'on veut cacher notre corps au regard des autres. La pudeur, parfois, il y en a que de la façon dont ils s'habillent, on dirait, je dis bien, on dirait plus qu'ils désirent se montrer que se cacher. Puis la modestie, c'est le contraire de l'orgueil. Tu sais, après ça, ils utilisent les mots avec pudeur et modestie, non de tresse de cheveux, ni d'or, ni de perles, ni d'habillement somptueux. Quand on lit les commentaires sur ces passages-là dans les Écritures, ceux qui ont écrit des commentaires sur les Écritures et qui analysent les mots grecs et tout ça, on parle de qu'à l'époque, il y avait des femmes romaines ou de d'autres grandes villes, et la façon pour les riches de se distinguer était dans des coiffures un petit peu sophistiquées, avec des perles dedans. Puis, on aurait dit que la femme désirait montrer son statut social, son niveau de richesse par sa coiffure, par ses tenues, puis ça que ça dit, ni d'or, ni de perles, ni d'habillement somptueux. La Bible ne nous demande pas d'aller au culte, puis surtout, je dirais encore plus, dans un culte. Je dirais, en général, la femme ne doit pas s'habiller comme ça. Ni dans le monde, ni à son travail, ni partout. Mais encore plus dans une assemblée du dimanche où on est là pour adorer le Seigneur et non pas pour attirer l'attention des mâles sur une partie de ton corps ou sur ton habillement ou sur ta coiffure. Malheureusement, ça arrive encore. Pas pour rien que le Saint-Esprit nous donne ces passages-là. Alors, il est impératif que les femmes, et aussi les hommes depuis quelques années, fassent preuve d'une modestie réfléchie. En anglais, le terme, c'est « decided modesty ». C'est que tu décides, à partir d'un moment donné, que quand tu vas à l'assemblée, t'es pas là pour plaire aux hommes, t'es pas là pour leur montrer tes formes, t'es pas là pour les montrer tes belles coiffures, ni tes belles tenues, ni tes belles robes. T'es là pour adorer le Seigneur et non pas distraire les hommes par la manière dont tu es habillé ou par la manière dont tu es coiffé ou par les beaux bijoux que tu as. À quelque part. Alors, les femmes ont le devoir de s'habiller avec pudeur et modestie, comme le dit le verset, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut facilement inclure les hommes là-dedans parce que j'en ai vu aussi dans des assemblées des hommes habillés d'une façon tellement serrée que. Tu devines tout, là. Alors, quelque part, c'est pas une façon de se comporter. On se doit de se conformer au commandement de Dieu et des Écritures. Il y a tellement de versets qui nous parlent de faire attention à la convoitise. L'être humain est porté à la convoitise par nature. Alors, faut pas faire grand-chose pour attiser cette tendance-là. Le Seigneur nous rend responsables, les hommes, les femmes aussi, de la manière dont nous comportons et l'influence que notre comportement peut avoir sur les autres aussi. Nous rend responsables. Matthieu 5, versets 28 à 30. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle et vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Quand une femme arrive dans une assemblée, puis que elle se penche pour y voir la moitié des seins, ou qu'elle a des pantalons tellement serrés que tu vois toutes les formes à travers, ou qu'elle a une blouse transparente que tu vois sous-vêtements à travers, ou des pantalons tellement presque transparents que tu vois les sous-vêtements à travers. Je l'ai vu souvent, souvent. Hein, pour dire, on ne devrait pas voir ça dans une église. On ne devrait même pas avoir besoin de prêcher là-dessus. Ça devrait être comme naturel au cœur de la chrétienne et du chrétien, parce que j'ai inclus le chrétien, mais je l'ai vu aussi des hommes s'habiller avec des manières de s'habiller qui est extrêmement mondaine. Pourtant, les Écritures sont claires qui nous disent de ne pas se comporter de la même manière que le monde se comporte. Alors, il dit, pour la convoitise, il a commis adultère dans son cœur. Et là, il nous donne des conseils, le Seigneur, des très grands conseils, conseils même des avertissements. Que si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse que tout ton corps, que si tout ton corps était jeté dans la géhenne. On parle de l'enfer, là. La géhenne, c'est l'enfer. Il dit, fais attention au péché que tu commets, parce que éloigne-toi-en, sois radical dans ta façon de l'enlever de ta vie, parce que ça peut te mener en enfer. Et si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la, jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse que si ton corps était jeté dans la géhenne. Je l'ai vu une fois dans une assemblée, une femme qui avait été reprise par une autre chrétienne. Elle dit, quand tu te penches, là, et j'avais vu une chrétienne dire ça à une autre chrétienne, quand tu te penches, on te voit le fond de culotte. À quelque part, on devrait, la personne qui se fait reprendre comme ça, elle devrait avoir suffisamment d'humilité pour dire, je pense que tu as raison, puis je vois. Mais quand ça ne produit pas d'effet, puis tu vois la femme continuer à porter la même chose la semaine suivante ou l'autre semaine après, là, il y a de la rébellion. Et la rébellion, le Seigneur, quand tu regardes la manière que le Seigneur a agi dans l'Ancien Testament envers le peuple hébreu lorsqu'ils étaient rebelles, c'est des jugements qui font peur. La Bible nous commande de ne pas ressembler au monde dans notre manière d'être. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. On l'a tellement entendu souvent. Des versets, des fois, on les a entendus souvent, mais je ne suis pas sûr qu'on les a compris. Parce que ça dit, je vous exhorte, donc, Paul y parle, on est rendu dans Romains 12, il a tout fait l'histoire du salut, et là, il est rendu à un point où il leur fait des recommandations par rapport à ce qu'ils ont reçu de Dieu. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, c'est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Pas se conformer au siècle présent, là. C'est que le chrétien, on ne devrait pas avoir même pas besoin de lui dire. Il ne doit pas ressembler au monde dans sa manière de se coiffer, dans sa manière d'être, dans sa manière de s'habiller. Parce que si tu te promènes dans le monde, tu le vois comment que les femmes sont habillées, en général. Puis tu le vois encore plus quand ils font des shows à télévision ou qu'ils font, je sais pas, à Hollywood, quand ils font des soirées. C'est incroyable. Tu regardes les photos, c'est indécent. Puis quand tu dis que tu vois des fois presque l'équivalent dans une assemblée, à quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et pour nous montrer notre responsabilité aussi, le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, voici ce qu'il a dit. Jésus dit aussi à ses disciples, « Il ne peut se faire qu'il n'arrive des scandales. Toutefois, malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer que de scandaliser un de ses petits. » Quand on parle d'un de ses petits, dans les Écritures, on ne parle pas des enfants, on parle... Pour le Seigneur, on est des petits, on est des enfants. Scandaliser un enfant de Dieu, comme l'exemple que je vous disais tantôt, là, une femme qui va voir une autre femme, ben, elle dit, franchement, là, tu mets un scandale, tu te penches pour te voir de fond de culotte. Ben, ça n'est un scandale, ça. Dans une assemblée, elle fait quasiment... L'autre est choqué de voir qu'elle se comporte comme ça dans une assemblée. À quelque part, elle est une occasion de scandale. Regarde ce que le Seigneur dit pour ceux qui sont des occasions de scandale. À quelque part, des fois, on prend la parole de Dieu, on le lit, mais on réfléchit pas à ce que le Seigneur est en train de nous dire. C'est sévère, les Écritures. Le Seigneur est bon, mais il est sévère aussi. Quand il y a trop de rébellion... Dans la vie des chrétiens, le Seigneur peut vraiment amener des jugements aussi. Et il y a une autre affaire aussi. Comme je vous ai dit tantôt, l'auteur que j'utilisais, puis j'écoutais ses sermons, il disait, souvent les femmes vont dire, « Ben, rien qu'à regarder ailleurs. » Tu parles d'un raisonnement, toi. Tu as le dos à l'air, T'as une blouse qu'on voit à travers, t'as des jeans qui te pètent sur le dos, puis quand on te le dit, ta façon de réagir, c'est qu'ils regardent ailleurs. Waouh! C'est fort comme raisonnement. Chez une chrétienne, c'est fort, ça. C'est vraiment centré sur toi. C'est extrêmement égoïste. Ça tient pas compte. Elle tient pas compte que son comportement fait pécher son frère. Parce que je peux vous dire une chose, je suis un homme et des conversations d'hommes sur la sexualité avant mon salut et après mon salut, j'en ai entendu à la tonne. Je sais comment ça pense un homme. Je peux vous dire une chose, quand une femme s'habille tout croche, elle fait, tu sais, dans le québécois, on dit ça fait triper le gars, là. Ben, si tu fais ça dans une assemblée, c'est grave ce que tu fais. T'es là pour adorer, t'es là pour prier, t'es là pour communiquer, recevoir l'Esprit de Dieu, entendre la parole de Dieu, puis tu déranges les hommes par ta manière d'être, ta manière de t'habiller, et tu attises leur convoitise sexuelle. Et je peux vous dire une chose, peut-être que la convoitise sexuelle des hommes est pire que celle des femmes. Moi, je suis pas une femme, je sais pas comment ça résonne une femme, je suis pas une femme, mais je sais comment ça résonne un homme, par exemple, je peux vous dire ça. Quand une femme est habillée tout croche avec des jeans qui lui pètent sur le dos, avec des jupes qui lui montent jusqu'en haut des cuisses, puis qu'elle s'assied, puis tu vois la cuisse, qu'on vienne pas me dire qu'il regarde ailleurs, là. Elle est là, en avant de toi, tu peux pas regarder ailleurs, à moins que tu sortes. À quelque part, ça démontre que la personne, elle n'est pas vraiment consciente de ce qu'elle fait. Elle pêche dans l'assemblée de Dieu. Elle pêche, premièrement, parce qu'elle a désobéi à la parole de Dieu dans son esprit. Et non seulement elle pêche, mais elle fait pécher les autres. Puis pas rien qu'un, des fois. Dans une assemblée, dans des grosses assemblées où sont 200-300, là, puis tu n'as 10-12 femmes comme ça, là. Combien de pensées mauvaises que vous pensez que ça fait monter dans la tête des gens, des hommes dans l'Assemblée? Ils se rendent pas compte, là. Tu sais, il faut vraiment tenir compte du fait que la femme ne fait probablement pas ça dans un esprit délibéré. Ah ben là, je vais te l'avoir, lui, je vais te l'écœurer, puis je vais te le faire, moi, te l'allumer. Elle fait pas ça dans cet esprit-là, probablement pas. Moi, je peux pas lire dans son cœur. Mais si elle, mais il reste qu'elle fait pécher le gars pareil. Puis ça fait la qualité du culte diminue à cause d'elle. C'est grave le péché qu'elle commet. Mais elle s'en rend pas, fort probablement pas compte. Mais ça nous dit dans Romains 14, versets 12 et 13, c'est pourquoi chacun de nous rendra compte à Dieu. Pour lui-même. Dieu va rendre demander des comptes, même sur ça, la manière dont tu t'es habillé dans un culte, puis ça l'a dérangé, puis ça l'a créé des péchés chez les autres, Dieu va te demander des comptes de ça. Il dit, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais jugez plutôt qu'il ne faut donner aucune occasion de chute, ni aucun scandale à son frère. Il ne faut pas être une occasion de chute ou de scandale à son frère. Quand on le fait, puis moi je dirais c'est encore plus grave si tu le fais dans le cadre d'un culte, soit du dimanche ou soit de la soirée de prière, c'est grave, beaucoup plus grave que les personnes croient. Proverbe chapitre 30, verset 20, ça nous dit, telle est la conduite de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point commis de mal. C'est l'équivalent de la femme qui rentre dans une assemblée moitié habillée, puis qui a dit, ben, ils sont pas contents, il y en a un qui a regardé ailleurs. Qu'est-ce que la pudeur et la modestie? Bien entendu, le texte nous dit que ça fait référence à plusieurs choses. Le vêtement, la coiffure et les bijoux. Paul, il est très conscient que les femmes utilisent normalement ces moyens-là, les vêtements, la coiffure ou les bijoux, pour attirer l'attention de l'homme ou des autres, ou la jalousie des autres femmes, sur la beauté de leur corps, sur une partie de celui-ci. Si une femme a une partie de son corps qui est particulièrement beau, faites-vous-en pas, elle le sait. Et elle met souvent cette partie-là. sciemment en valeur pour faire triper le monde sur elle. Elle veut être le centre de l'attention. Alors que quand on va au culte, on ne devrait pas être là pour attirer l'attention sur soi, mais bien sur le Seigneur. Alors, bien entendu, aussi, ça peut être un autre moyen, aussi, non seulement d'attirer la convoitise sexuelle, mais ça peut être aussi un moyen d'étaler de manière excessive et indiscrète ta richesse ou ton statut social. Tu sais, dans une assemblée, une suite, on est petit, mais dans des assemblées de 200, des fois, là, des fois, il y a des médecins là-dedans, il y a des avocats, il y a des notaires, et il y a des ouvriers aussi. C'est facile pour la femme, disons, d'un notable d'arriver le dimanche matin, puis elle ne dira pas comme ça, mais c'est « Regardez-moi, je suis riche, moi. J'ai des belles bottes, moi. J'ai des belles robes, moi. » C'est le même que ça se passe véritablement. Alors, et c'est les choses qu'il faut corriger. Parce que surtout, c'est particulièrement blâmable lorsque ça se passe à l'intérieur d'un culte. Alors, on n'a pas besoin de faire d'un cours classique pour voir qu'est-ce que c'est que le manque de modestie et le manque de pudeur. Quand une femme porte des pantalons qui sont trop serrés, ou ce qu'on appelle des mini-pants, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'époque des mini-pants, des petits pantalons mini-courts, je l'ai vu personnellement. Je me souviens d'un moment où je suis allé dans un culte à Sherbrooke, et une femme qui était diaconesse en plus à l'époque, arrivée avec un pantalon comme ça, tellement court, que je lui voyais un pouce des fesses dépassées de son... fait que, non, mais imaginez, à quelque part. Donc, des pantalons trop courts, des leggings qu'appellent. Tu arrives à l'église en legging qui est tellement serré que tu vois tout à travers. Tu n'as pas besoin de bien d'imagination. Tout est là. Ou ben non, des robes trop courtes, des jupes trop courtes, des dénudations du corps qui est trop grand, la moitié du dos dénudé, ou toutes sortes de choses comme ça. Des costumes de bain quand tu vas... aujourd'hui, les costumes de bain, c'est plus des costumes de bain, c'est... ouais, c'est... Alors, ça ne peut pas faire autrement qu'attirer l'attention des hommes et les amener à pécher. Alors, la femme pêche en le faisant et elle amène... Alors, quels sont les remèdes pour corriger cette chose-là? Bien entendu, c'est la repentance. La repentance, c'est à partir du moment où on te le dit, ça devrait être automatique. Tu devrais avoir suffisamment d'humilité pour recevoir la réprimande qu'on te fait ou le conseil qu'on te donne. Et une repentance, ça implique toujours un changement d'attitude et de pratique. Si tu ne changes pas, tu es en train de t'encrouter dans le péché. Et c'est grave. J'ai déjà vu, un moment donné, dans une église, je ne dirais pas laquelle, une femme rentrée un dimanche matin, elle était tellement indécente que le pasteur lui a dit, « Toi, là, tu t'en retournes chez vous, tu vas être habillée, puis tu reviendras quand tu seras bien du monde. » Mais pensez-vous que c'est agréable pour un pasteur d'être obligé de faire une chose semblable? Pas vraiment, là, je peux vous dire ça. Alors, la prière, il y a le deuxième moyen, donc la repentance, c'est le changement d'attitude et de pratique. La deuxième moyen, c'est la prière fervente. Mets-toi donc à genoux. S'il y a des gens qui t'ont dit que tu es indécent ou que tu manques de pudeur, mets-toi à genoux devant l'Éternel et pose... Mets le problème devant le Seigneur et pose-lui la question, « Seigneur, est-ce que je suis correct quand je vis de même? » La vraie prière, là. Pas une prière vraie, là. Tu te mets devant le Seigneur et tu lui demandes. Il va te répondre, de toute façon. Et la troisième, et celle-là est très importante, l'accueil humble des conseils et des exhortations des autres. Dans la Bible, le Seigneur a mis l'homme chef de la famille. Et quand le chef de la famille voit sa fille ou sa femme se promener comme ça et qu'il n'intervient pas, il pêche lui aussi. Parce que quand on voit quelqu'un qui est sous notre garde, sous notre responsabilité et qui n'agit pas selon ce que la Bible le demande, Le gars, il pêche aussi. Là. Alors, toute personne l'accueille un des conseils et des exhortations. Il y a plusieurs personnes. Il y a le mari. Il y a le père de famille, parce que des fois, les filles sont plus jeunes. Après ça, il y a celle du pasteur. Et celle aussi des autres membres des églises. Je l'ai vu dans des églises. Une femme est obligée de reprendre une autre femme. Ou des gens sont obligés de reprendre d'autres femmes. Vous l'avez probablement peut-être vu aussi, vous autres aussi. Mais à quelque part, l'accueil humble, c'est pas évident d'accueillir humblement un reproche ou une réprimande qu'on te fait. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est toujours la faute de l'autre. Je suis en train de pécher, j'attire les autres, le regard des autres. Mais c'est pas ma faute, c'est lui. Il y a un qui regarde d'ailleurs. À quelque part, c'est, notre vieille nature est toujours portée à tout reporter la faute sur les autres. Et le deuxième point, on ne l'entreprendra pas ce soir, mais il est quand même, je vais quand même juste comme début, le mentionner le début. C'est que depuis quelques années, au Québec et dans le monde, et depuis à peu près, je dirais peut-être une dizaine d'années, ils ont sorti une déclaration des pasteurs aux États-Unis, ça s'appelle la déclaration de Nashville sur le genre et la sexualité. Ça a été rédigé en 2017 par un groupe de pasteurs américains et ça a été signé par, je vais vous le dire là, 22 000 chrétiens aux États-Unis. Pour montrer la situation actuelle où on peut dire, où on dit par exemple qu'une jeune fille, si elle sent un petit gars, peut changer de sexe, et tout ce qui tourne autour de ça, des toilettes spéciales pour les transgenres et tout ça. Ben, ils ont construit moi je la trouve extraordinairement bonne, bien faite, bien rédigée, bien réfléchie, pour nous montrer que c'est le Seigneur qui a choisi notre sexe. Et que de renier le sexe que le Seigneur nous dit, nous a donné, c'est grave. Et il utilise toutes sortes de versets et pour démontrer comment les chrétiens modernes, c'est nous ça, doivent réagir face à ces genres de choses-là qui commencent à nous entourer de plus en plus. Et je vous dis, on n'a pas fini. Ça s'en vient, ça rentre partout dans les églises. Ça, dans le monde, c'est déjà rentré pas mal, là, mais ça va venir dans les églises aussi. Alors, le document a été préparé pour nous, pour que les chrétiens sachent quoi penser face à ces choses-là, sachent comment réagir face à ces choses-là. Alors, dans notre leçon, notre prochaine leçon, on va regarder le devoir que les hommes et les femmes ont de maintenir les signes distinctifs de la féminité et de la masculinité. Et le document, je vais en avoir mis une copie pour tout le monde, et je vais probablement en donner une copie aussi au cours de catéchisme. Ça s'appelle la Déclaration de Nashville sur le genre et la sexualité, 4 pages aussi, un bijou. Ça a été bien fait, et c'est nécessaire pour les chrétiens modernes de savoir un peu comment on se doit penser et agir, et quel verset utiliser lorsque des cas semblables se pointent autour de nous, et on ne sait pas quoi dire. Alors, ça va être notre prochaine leçon, on va regarder ça, qui va être le devoir de maintenir des signes distinctifs de la féminité et de la masculinité, parce que c'est le Seigneur qui en a décidé ainsi. Et aujourd'hui, on cherche à effacer les différences entre les sexes. T'es un petit gars, tu penses que c'est une petite fille, ben, ah, pas de problème. T'es une petite fille, tu penses que c'est un petit gars, ben, ah, tu peux venir un petit gars. Et etc., c'est très, très large, cette histoire-là. Alors, on va regarder ça un petit peu la semaine prochaine. Alors, on va arrêter là-dessus et on continuera la semaine prochaine.